Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique Édouard Rubinstein. Avant d'entamer demain une série consacrée aux économistes devant leur boule de cristal, nous nous rendons aujourd'hui sur le front de l'emploi où grandissent les inquiétudes. Depuis le début de l'épidémie, plusieurs centaines de milliers de postes ont déjà été détruits et la deuxième vague de licenciements s'annonce plus forte encore. Pour limiter la casse, le gouvernement a présenté la semaine dernière son plan de relance. 15 milliards d'euros ont été mis sur la table pour soutenir l'emploi et la formation. Alors la France réussira-t-elle à échapper au chômage de masse? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Parler de la lutte contre le chômage, la montée du chômage, nous accueillons aujourd'hui trois économistes. Xavier Rago, président de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Christine Herel, titulaire de la chaire économie du travail et de l'emploi au Conservatoire national des arts et métiers. Et François Langot, professeur associé à l'école d'économie de Paris. À 14h45, vous retrouverez la bibliothèque de l'Écho. Dans son dernier essai, le sociologue François Vatin propose de repenser la place de l'économie au sein des sciences sociales.
J'espère que le plan de relance, en 2021, l'année prochaine, créera 160 000 emplois. C'est notre objectif. Voilà. On va le vérifier. On a des chiffres qui disent plus. Bon, il faut toujours, là aussi, c'est pas le genre de la maison, faire des rodomontades et dire on va inverser des courbes, on va, etc. Non, on a des choses très concrètes, très précises. On va se donner des outils de suivi transparents, auxquels auront accès la représentation nationale, les partenaires sociaux, le dialogue social est fondamental dans cette période et nous allons essayer de gagner cette partie, on va la gagner.
François Langot, Xavier Rago et Christine Herel, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre le Premier ministre, Jean Castex, le jour de l'annonce du plan de relance, c'était jeudi dernier. Un plan pour protéger l'emploi, c'est une priorité absolue à l'heure où des licenciements massifs se profilent, Xavier Rago?
Oui, moi je pense que ma lecture, c'est que l'objectif d'emploi est un objectif central pour sortir de cette crise. Vous avez dit qu'il y a une vague de licenciements qui s'annonce et vous avez raison. Vous savez que les chiffres du chômage qui sortent et qui sont débattus dans la presse sont très peu compréhensibles parce que les chiffres du chômage standard disent que le chômage décroît. Parce qu'on mesure tellement mal le chômage aujourd'hui dans cette crise. Et qualifier généralement chômeur une personne qui est disponible quasiment tout de suite pour aller travailler. Et en fait, il y a très peu de personnes en cette période de Covid qui sont directement disponibles, soit parce qu'ils ont des petits emplois, soit parce qu'il faut du temps pour quitter leur emploi pour en trouver un autre à temps plein, par exemple, s'ils étaient à temps partiel. Donc, notre lecture, c'est que dans les périodes de confinement et post-confinement, il y a de l'ordre de, effectivement, 600 000 emplois qui ont été détruits. Mais ils sont pas directement dans les chiffres du chômage, ils sont dans d'autres mesures qu'on appelle le halo ou le sous-emploi. Je commence par ça d'emblée parce que c'est important de comprendre la situation du marché du travail. La situation du marché du travail, c'est que nos indicateurs standards ne sont pas la bonne mesure du problème de l'emploi auquel on va faire face. Maintenant, avant le plan de relance, dont on parlera beaucoup, je pense, dans cette émission pour essayer de comprendre ce qui se passe, la compréhension, la dynamique vraie du taux de chômage était de l'ordre d'une hausse du taux de chômage vers 11%, voire 12% au milieu de l'année 2021. Ça fait beaucoup, ça fait 3 à 4 points de chômeurs en plus, ça fait 900 000 chômeurs en plus. C'est des niveaux de taux de chômage qui sont historiques dans la compréhension de l'économie française.
Alors François Langot, je voudrais vous faire réagir à ce que vient de dire Xavier Rago, à la fois sur la difficulté effectivement à mesurer l'ampleur de la hausse du chômage en France et aussi sur cette seconde vague qui pourrait être plus massive que la première.
Alors pour un peu aller dans le même sens que Xavier, c'est vrai que les chiffres du chômage entre les deux premiers trimestres de l'année ont baissé, il est passé de 7,2 à 7,1. Donc là c'est vrai que c'est un peu déroutant alors qu'on est en période de pleine crise. Par contre, comme le soulignait Xavier, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le nombre de personnes qui sont en fait sans emploi dans les entreprises. Parce qu'en fait, 20% des travailleurs ont été en chômage technique, l'équivalent temps plein en fait des employés qui ont été en chômage technique pendant le confinement a été de 20%. Donc 20% des 65% d'employés en France, ça fait en gros une augmentation du chômage. Xavier était un petit peu optimiste. Moi, je l'approxime à quelque chose de 12 points. Donc le gouvernement, de par les mesures de chômage partiel qu'il a prises, a évité une augmentation du chômage de 7 à 19%. Donc on a eu finalement, grâce à ces mesures de chômage partiel, des équivalents temps plein qui ont été payés par le gouvernement pendant cette période très difficile, qui, sans cette intervention de l'État, aurait peut-être pu amener à une augmentation de 12 points du chômage.
Un chômage partiel dont il va falloir voir comment l'État peut sortir aujourd'hui. Christine Herel, comment comprendre que cette seconde vague de plans sociaux à laquelle on peut s'attendre devrait être plus forte que ce à quoi on a assisté jusqu'ici?
Alors, il faut peut-être revenir sur ce qui s'est passé jusqu'ici, parce que jusqu'ici, on n'a pas eu tant que ça, finalement, de plans sociaux. Si on regarde le nombre d'emplois qui ont été détruits dans le cadre de PSE dans le courant de l'année, il est faible.
Donc, plan de sauvegarde de l'emploi qui est en fait un plan social.
Ouais, c'est pas là que ça s'est passé. Ça s'est passé ailleurs. Ça s'est passé dans le fait qu'un certain nombre de CDD courts n'ont pas été renouvelés, que l'intérim s'est effondré. Donc, on est plutôt sur ces emplois-là. C'est plutôt les emplois de durée courte qui ont été détruits. Et puis, par ailleurs, donc, comme ça a été évoqué à l'instant, pour les emplois plus stables, on a eu ces mécanismes de stabilisation mis en place par le biais du chômage partiel. Donc la vague de licenciement, si elle se confirme, elle est plutôt devant nous. Celle qui va effectivement passer par des outils qui sont des outils de type plan de licenciement, alors que jusqu'à présent, on a plutôt eu des destructions d'emplois courts.
Et elle est devant nous parce que les entreprises vont devoir commencer à rembourser, Christine Herel ?
Elle est devant nous parce que l'ajustement, enfin je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, c'est que les aides qui ont été mises en place par l'État vont en partie quand même aussi vont ralentir, même s'il y a une prolongation, c'est une bonne chose, du dispositif de chômage partiel. On annonce une fin, on annonce le fait que sans négociation et sans rentrer dans le dispositif d'aide de longue durée, on va avoir dans ce cas une réduction de la générosité de ce qui est donné par l'État. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un changement quand même de ce point de vue-là dans les annonces du gouvernement. Et puis l'autre point, c'est que pour les entreprises, elles peuvent peut-être mieux maintenant, enfin quoi que ça peut être discuté, mais elles vont pouvoir se projeter peut-être un peu mieux sur leur activité de l'année fin 2020, début 2021. Et donc, si elles envisagent des baisses durables d'activité, là, effectivement, envisager des licenciements.
Donc une baisse de la générosité de l'État et en même temps la nécessité pour un certain nombre d'entreprises de payer leurs fournisseurs, ce qu'elles n'ont pas fait pendant la crise, Xavier Rago.
Tout à fait. Faut voir la situation, parce que tout ce dont on parle là est quand même conditionnel à une très grande incertitude sanitaire qui pèse sur nos comportements de consommation et donc les choix d'investissement et donc les cahiers de commandes des entreprises. Donc ce qui va se passer là dans la période, c'est que effectivement on a gagné du temps. On a gagné du temps d'une manière exceptionnelle en termes d'argent public investi par l'activité partielle, ce qu'on appelle le chômage partiel. Effectivement, il y avait 8 millions de salariés qui étaient payés par l'État pour travailler dans les entreprises et par le report des cotisations sociales, le report des charges sociales et fiscales, par le plan garanti par l'État et autres. Donc, l'État s'est endetté à hauteur de 20%. À peu près du PIB, on est passé de 100% de dette publique à 120% à peu près, pour acheter du temps, pour stabiliser l'économie. Maintenant, on est dans une période, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va demander aux entreprises de rembourser, par exemple ce que vous décrivez, le plan garanti par l'État à court terme, et vu l'incertitude, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont faire faillite.
D'où le fait que certains prêts garantis par l'État vont voir leur durée allongée.
Voilà, donc je pense que, par rapport à une lecture peut-être qui était optimiste avant, au tout début, en avril-mai, en disant voilà, on confine pendant 2 mois et après on va s'en sortir. Là, on est dans une phase où, bon, je pense pas qu'il y ait une seconde période de confinement si intense, mais on va continuer à gagner du temps pour stabiliser les entreprises. Donc, que vont faire les entreprises? Les entreprises, il faut absolument faire continuer certains dispositifs pour stabiliser l'emploi et que les entreprises n'aient pas des stratégies juste de survie très court-termiste et de réduire l'emploi, alléger les délais de paiement et autres. Donc, il faut réaffirmé dans la période actuelle, et on parlera de, encore une fois du plan de relance, là on tourne autour, pour il y a des éléments positifs et négatifs, pour stabiliser les anticipations à la fois des entreprises et des ménages, pour que l'activité permette de survivre. Dernier point là-dessus, on avait estimé avant la crise l'évolution des faillites d'entreprises. Il y a à peu près 50 000 faillites par an, on envisageait un doublement des faillites et des défaillances d'entreprises. C'est beaucoup. Pareil, il y a des dispositifs qu'on mettre en place pour éviter les faillites, notamment des PME, des TPE, parce qu'il y aura un effet domino dans des petites entreprises françaises qu'il faudra gérer et qui aura un impact massif sur l'emploi.
Je voudrais vous entendre notamment sur cet effet domino, François Langot, qui est particulièrement redouté, sachant qu'il faut le dire qu'il y a eu effectivement 326 plans de sauvegarde de l'emploi qui ont déjà été recensés depuis mars.
Oui, alors, bon, l'effet domino, effectivement, on en a tous peur. C'est pour ça aussi que je pense que l'État a mis en place des prêts garantis. Après, moi, je serais un petit peu moins pessimiste dans la mesure où, par exemple, les offres d'emploi sur le web qui avaient énormément chuté durant le confinement, à peu près une chute de 40%, sont revenus, à leur niveau en fin août, à leur niveau d'avant crise. Donc, on sent aussi quand même que les entreprises françaises voient un certain soutien du gouvernement et voient que l'activité peut-être demain va reprendre. Le pessimisme, effectivement, est dans beaucoup de têtes de nos concitoyens. Par contre, on voit quand même que les entrepreneurs prennent des risques et donc sentent que quelque part, il y aura une garantie, soit par l'État, soit que les marchés, effectivement, eux, qui le sentent mieux que nous, frémissent dans le bon sens. Et donc, moi, je trouve que l'évolution du nombre d'emplois vacants sur le web est un très bon indicateur de la confiance des entrepreneurs, puisque durant la phase de confinement, ce qui a principalement chuté dans l'emploi, c'est pas les, il n'y a pas eu des destructions d'emplois, il n'y en a pas eu, il y a eu des baisses du taux d'embauche. Donc effectivement, comme il y a eu une baisse du taux d'embauche et qu'il y avait des départs par des retraites, etc., le nombre d'employés a baissé, mais ce qui a surtout énormément baissé, c'est le nombre d'embauches durant le confinement, ce qui a évidemment beaucoup frappé les jeunes. Mmh. Et la remontée du nombre d'emplois vacants et du nombre de postes sur le web est, je trouve, moi, un très bon indicateur de la confiance des entrepreneurs.
Avant d'en venir au détail de ce plan de relance, un mot encore général, Christine Herel, sur le fait que certaines entreprises pourraient peut-être profiter des circonstances actuelles pour licencier, je pense à Sanofi qui a annoncé la suppression de 1000 postes en France alors que son chiffre d'affaires a augmenté de près de 7% durant le premier trimestre de 2020. Cela a créé, cette aide de l'État, un effet d'aubaine pour les entreprises ?
Alors, sur le chômage partiel, oui, nécessairement, à partir du moment où il n'y a pas de ciblage et où on est sur une mesure très large, c'était ça l'idée. L'idée, c'était vraiment de créer un effet de stabilisation et d'éviter les licenciements. Donc, du coup, d'avoir quelque chose qui n'était pas conditionné à des mesures particulières. Donc, du coup, oui, forcément, on a des entreprises qui ont utilisé le dispositif d'une manière, alors qu'elles n'en avaient pas réellement besoin, voire de manière frauduleuse. Il y a eu des exemples qui ont été évoqués dans les médias d'entreprises qui demandaient à leurs salariés de venir travailler quand même alors qu'ils étaient en chômage partiel. Mais ça reste, je pense, quand même très minoritaire. Donc, pour ce qui est de l'effet d'aubaine sur le volet plus licenciement, la seule manière de contrer ça, c'est d'avoir une négociation collective qui soit suffisamment efficace au niveau des entreprises pour pouvoir effectivement mettre le doigt là où il y a des licenciements qui peuvent être des licenciements abusifs.
Mais c'est l'une des grandes questions tout de même. Est-ce qu'il faut compter sur la bonne volonté des entreprises ou est-ce que les aides de l'État devraient être conditionnées comme le demandent les syndicats, Xavier Rago ?
Alors c'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce qu'on est dans une crise inédite. Il faut aller vite, il faut en faire suffisamment pour soutenir l'économie avec différents canaux. Et pas en faire trop, parce qu'il s'agit d'aider l'emploi et pas aider des entreprises qui n'en ont pas besoin, ce que vous appelez les effets de domaine et autres. Et le curseur est très difficile à mettre. Par exemple, si on conditionne certaines aides, des baisses, la question, c'est peut-être certaines entreprises n'iront pas accès alors qu'on aurait voulu qu'elles y aient accès. Et parfois, il faut ratisser large et après augmenter les impôts sur les entreprises pour se récupérer. Je vais donner un exemple concret de ce dont on parle. Là, ce dont on parle dans le plan de relance, c'est les 10 milliards par an des impôts sur la production. C'est essentiellement ça le sujet de conditionnel. Est-ce qu'il faut baisser les impôts sur la production, conditionnel à un accord d'entreprise ou à des accords de branche et autres. Par exemple, dans ce cas-là, ma lecture, c'est que moi, j'aurais fait deux choses. Soit on baisse beaucoup moins les impôts de production, pas 10 milliards, mais 3-4 milliards pour les cas les plus problématiques. Et parce que les impôts, la production, pour nos auditeurs, c'est des très mauvais impôts. Ces entreprises, elles les payent avant de produire. Donc, mieux vaut taxer les profits quand ils sont réalisés plutôt que taxer les entreprises avant qu'elles produisent. Donc, on aurait pu, par exemple, baisser moins les impôts de production et, de manière inconditionnelle, et augmenter l'impôt sur la société en même temps de quelques pourcents pour avoir un budget équilibré de l'État et transformer les mauvais impôts sur l'entreprise pour les bons impôts sur l'entreprise. Ça, je pense que ça se défend en termes de discours. La conditionnalité, moi, la difficulté dans une gestion de la crise aussi intense, et alors qu'il faut vraiment aider les entreprises, c'est que ça va mettre du temps à créer des accords. Il y aura des débats parfois légitimes, parfois complexes. Et là, on a vraiment besoin d'aller vite pour aider l'économie française.
François Langot, vous êtes d'accord? On est dans une crise à laquelle il faut répondre trop rapidement pour pouvoir conditionner ces aides?
Oui, je pense que là, on a vraiment été pris à la gorge. C'est extrêmement difficile de faire un cahier des charges définissant clairement la conditionnalité en fonction du risque pris. Vu que le risque n'est pas mesurable en ce moment, ça paraît quand même extrêmement compliqué de conditionner. Donc moi, qui ne suis pas un grand partisan de la dette, hein, j'avoue franchement que baisser les impôts et augmenter la dette dans de telles circonstances me paraissent être la meilleure mesure qui a été prise.
Alors quels sont les outils dont dispose aujourd'hui le gouvernement? D'abord, il s'agit de cibler les jeunes qui sont 750 000 à arriver sur le marché du travail en cette rentrée, Christine Herel?
Oui, c'est effectivement une des priorités qui avait déjà été annoncée pendant l'été. Donc là, c'est pas nouveau par rapport aux annonces récentes.
Donc, le plan jeune a été effectivement validé au mois de juillet.
Ouais. Donc sur l'idée générale, effectivement, c'est de tenir compte du fait que les jeunes risquent d'être particulièrement touchés du point de vue des difficultés actuelles sur le marché du travail. Ils ont été touchés d'abord parce que ils occupent plus souvent des emplois qui sont des emplois de durée courte, comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, et donc ils ont été plus touchés par les destructions d'emplois des mois du confinement, etc. Ils ont souvent aussi eu des difficultés à terminer leurs études ou à finir leur année d'études l'année dernière, compte tenu des conditions dans lesquelles ça a pu se passer. Enfin, pour toutes ces raisons, les jeunes ont été particulièrement touchés pendant la période de crise et le confinement. Là, pour la rentrée, ce qu'on peut craindre, c'est un effet génération sacrifiée, c'est-à-dire le fait que ceux qui vont entrer sur le marché du travail vont effectivement trouver des conditions d'accès à l'emploi beaucoup plus difficiles. Et que cet effet-là va avoir des conséquences durables pour eux, à la fois en termes de délai d'accès à l'emploi et puis de carrière, y compris salariale, etc.
D'où ce plan de 6,5 milliards d'euros sur 2 ans, donc qui a été présenté au mois de juillet. Un plan qui prévoit entre autres une aide à l'embauche de 1 000 euros chaque trimestre jusqu'à un salaire de 2 SMIC pour une embauche d'au moins 3 mois d'un jeune de moins de 25 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, Xavier Rago?
Alors, dans le plan de relance, je pense que c'est bien qu'on ait ces débats parce qu'il est peu lisible, je pense, pour nos concitoyens. Il y a plein de choses, il y a plein de mesures et en fait, il y a plein d'implicites. Et par exemple, comme beaucoup, hein, à l'OFCE, on est en train de l'évaluer pour comprendre son effet réel sur l'emploi. Les 160 000 dont on a parlé, et notamment cette mesure-là. Cette mesure-là, elle est relativement positive par rapport à d'autres choses dont on avait débattu, qui étaient des baisses de charges généralisées. Qui coûtait très cher à l'État et dont l'effet sur l'emploi pouvait être plus faible. Là, c'est une prime à l'embauche, faire des populations les plus fragiles dans l'accès à l'emploi. Alors, donc l'idée est bonne, parce que encore une fois, ce qu'a dit Christine Herel est totalement juste. La génération sacrifiée seront les jeunes qui arrivent sur le marché du travail là. Quel est le problème de cette mesure maintenant? Et ça va être tout le débat, c'est le détail de cette mesure. Quand on met un critère d'âge aussi précis, il y a un petit risque qu'à la marge, le salarié de 26 ans, 27 ans qui a la même qualification, forcément l'entreprise, elle va préférer le salarié de 24 ans. Voilà. Donc il y aura un effet de substitution du fait de cet effet de seuil très important. Moi, pour cette mesure en particulier, j'aurais aimé qu'on lisse un petit peu plus le critère d'âge pour éviter les effets de seuil. Vous voyez, on rentre dans des débats qui peuvent être assez précis. Oui, pour la philosophie générale, aider les gens, avec l'argent public, c'est ce dont on parle, hein, les jeunes d'aller à l'emploi. Dans le détail de cette mesure, on aurait pu peut-être faire un petit peu mieux pour effectivement aider les jeunes sur le marché du travail.
Une mesure intéressante, mais qui a des effets pervers, François Langlois.
Alors, c'est une mesure, évidemment, moi, je trouve très, très intéressante, parce qu'évidemment, elle conditionne. C'est pas typiquement une mesure avec une conditionnalité, puisqu'on reçoit de l'argent que si on fait l'acte positif d'embaucher. Donc ça, c'est effectivement très positif. Maintenant, je suis un peu de l'avis de Xavier, tout en, je vais peut-être un peu le complémenter. Moi, effectivement, les effets de seuil, je trouve pas ça vraiment, c'est un peu dommageable, l'âge 25 ans, qui fait qu'on n'a plus droit au-dessus d'être subventionné. L'autre problème que je trouve vraiment le plus important, c'est que je trouve que le montant n'est pas vraiment à la hauteur de l'ambition. C'est-à-dire que quand on...
1000 euros chaque trimestre.
1000 euros par trimestre pendant un an, 1000 euros par mois, par trimestre pendant un an, c'est pas une grosse somme, parce que si on veut embaucher un jeune à 2 SMIC, finalement, c'est même pas une subvention à hauteur de 10% de son coût salarial annuel. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait du bien à l'entreprise de gagner 10% du coût du travail sur un jeune payé de SMIC, mais j'ai du mal à penser que ce soit suffisant. J'aurais aimé une plus grosse subvention.
On peut se demander si ça va effectivement avoir vraiment un impact sur l'emploi des jeunes, Christine Herel.
Ça aura probablement un impact. La question, c'est même s'il y a des effets de substitution possibles qu'on a évoqués, même si là aussi il y a des effets d'aubaine, c'est toujours ça la difficulté avec ce type de mesure, mais il y aura probablement un impact au moins à court terme. La question ensuite, c'est aussi, je pense, un des défauts de ce dispositif aussi, c'est que le critère de durée, c'est 3 mois. Donc 3 mois, c'est quand même relativement court. C'est-à-dire qu'on peut du coup, malgré tout aussi, faire tourner les jeunes sur le dispositif en question. Donc moi j'aurais trouvé intéressant aussi un dispositif qui prenne en compte de manière plus positive le fait de créer un emploi plus stable pour les jeunes en question, avec un vrai investissement de l'entreprise du coup, y compris dans la formation du jeune, parce que 3 mois c'est très court.
Justement sur la formation des jeunes, le gouvernement tente de retarder l'arrivée d'une partie des jeunes diplômés sur le marché du travail en leur permettant d'effectuer un semestre ou une année d'études en plus grâce à l'ouverture de 200 000 places dans des formations qualifiantes supérieures. Là encore, une bonne solution pour vous, Xavier Rago ?
Oui, mais comme François Langot, j'aurais été beaucoup plus loin. Et c'est quelque chose un peu caché dans ce plan. C'est un plan, il y a des bonnes idées, mais qui sont un peu cachées. Là, c'est des emplois aidés, point. Alors maintenant, ça change de nom, on appelle ça parcours emploi compétences. Moi, j'aurais été beaucoup plus loin dans un emploi aidé qualifiant, le maximum pour toutes les classes d'âge, des gens qui ont un problème d'accès à l'emploi. On sait, c'est un mauvaise presse, emploi aidé, ça fait très Jospin, hein, ça fait très ça fait très années 90, voilà. Bon, mais là, on est dans une crise où mieux vaut permettre à des jeunes, encore une fois, en investissant dans notre jeunesse, d'avoir des emplois avec des qualifications après, avec des parcours professionnels larges. Là, c'est par exemple, vous avez parlé de ces emplois-là, il y a 300 000 emplois dans le plan parcours emploi compétences. Mais je vous assure qu'il faut lire le plan de relance pour mettre ces emplois-là, pour voir quelles seront les grandes masses envers les jeunes, parce que c'est éclaté dans des problèmes. C'est un peu pas assumé. Assumons le fait que voilà, on va aider massivement les jeunes sur le marché du travail et mettons beaucoup d'argent, me semble-t-il. Alors beaucoup d'argent, c'est 1, 2, 3 milliards, c'est pas par rapport aux 100 milliards, on parle à des montants qui sont absorbables. Mais pour aider les jeunes à avoir un accès à l'emploi, et on a fait avec l'activité partielle qui a aidé les gens qui avaient déjà un emploi en poste. Et c'était bien qu'on l'a fait. Il faut aider les jeunes à arriver à ce statut-là.
Aller plus loin dans les contrats aidés, notamment parce que ces contrats-là, qui sont donc des CDD subventionnés par l'État et qui peuvent intervenir dans le secteur marchand comme dans le secteur associatif ou public, François Langot, ces emplois-là, ces contrats-là, sont une façon efficace d'aller chercher les jeunes les plus éloignés de l'emploi ?
Je pense que c'est une manière très importante, parce que la France, il faut pas oublier d'où on part. On part d'un taux d'emploi des jeunes qui est 2,5 fois plus faible que celui des Allemands et 3 fois plus faible que celui des Américains. Donc ça, c'est pas une question de Covid, c'est pas une question de crise, c'est que structurellement, la France n'embauche pas de jeunes. Donc là, effectivement, on a sur la table la possibilité peut-être un petit peu de faire un monde après qui soit plus juste pour les jeunes. Donc le coût d'opportunité de l'éducation étant faible en ce moment, puisque les périodes de chômage vont peut-être un peu s'allonger. Donc c'était le moment, effectivement, de mettre sur la table beaucoup d'argent pour que les jeunes puissent monter en compétences, parce qu'il faut aussi dire que nos jeunes, s'ils sont moins embauchés, c'est qu'aussi en moyenne, ils sont moins qualifiés que les Allemands et les Américains. Donc là aussi, c'était peut-être le moment, avec un coût d'opportunité faible de l'éducation, à saisir pour mettre vraiment sur la table beaucoup d'argent pour remettre le pied à l'étrier à beaucoup de jeunes dans notre pays qui sont effectivement assez éloignés de l'emploi.
L'État va également recruter des contrats de projet, des CDD spécifiques à la fonction publique d'une durée de 1 à 6 ans. Est-ce qu'il faut se réjouir, Christine Herel, de ce que l'État embauche, notamment à l'hôpital public, ou s'inquiéter de la précarité de ces contrats ?
Non, c'est une bonne chose que l'État embauche dans la mesure où l'emploi public, là aussi, c'est une variable d'ajustement en temps de crise. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais tout dépend des parcours professionnels ensuite qui seront construits derrière par rapport à ce qu'on évoque en termes de précarité. Donc, dans des secteurs qui sont des secteurs prioritaires, des métiers qui sont vraiment essentiels, donc du type, effectivement, tout ce qui va être santé ou au sens large, hein, y compris les maisons de retraite, etc., par exemple, effectivement, c'est tout à fait souhaitable d'avoir ce type de création d'emplois. Mais ensuite, la question derrière, c'est comment on fait des parcours qui sont des parcours avec des vraies carrières, avec des possibilités de progression, etc.
Est-ce que c'est une bonne chose, Xavier Rago, d'avoir toute une palette comme ça de possibilités pour l'emploi des jeunes? On a parlé des contrats aidés, les contrats de projet. Il y a aussi le service civique qui va être doté de 100 000 missions supplémentaires dans des associations. C'est une bonne chose ou est-ce qu'il y a un effet un peu d'éparpillement?
C'est dur à dire. Et vous voyez, notre discussion là, en tant qu'économiste, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On dit poste par poste que les montants sont faibles. Je pense qu'il faudra agréger tous les postes. Et c'est dur de voir. Là, on a l'impression que c'est un jardin à l'anglaise. Il y a plein de choses et on ne sait pas trop quel dispositif va marcher, en fait, au moment où on se parle. Parce que parfois, on met en place des dispositifs et puis ça rencontre ni à la fois l'adhésion des jeunes ni l'adhésion des entreprises.
L'idée, c'est peut-être de renforcer les dispositifs qui marcheraient.
Exactement. Moi, c'est mon point. C'est que, en fait, si jamais, et j'espère que c'est le cas, si jamais on met en place des dispositifs, dans 3 mois, on se revoit, on voit ce qui marche et on réajuste le plan, là, je pense qu'on peut avancer dans le bon sens. Moi, j'ai une petite crainte que ce plan-là apparaisse aux yeux des Français pour solde de tout compte. Voilà, on fait ce plan-là pour gérer la crise. On ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop ce qui va fonctionner, ce qui n'a pas fonctionné. Dans plein de domaines aussi, pour éviter les faillites d'entreprise, mettre les jeunes en emploi, mettre les jeunes en qualification. Je pense que autant ces dispositifs que le suivi réel pour essayer d'ajuster les budgets vers ce qui fonctionne le mieux va être très important dans les mois qui viennent pour que cet argent public ne soit pas dépensé en pure perte, parce qu'il y aura peut-être des polémiques si jamais il y a les effets domaines dont vous parlez. Il faut que cet argent soit efficace dans la crise qui vient. Donc évaluons et ajustons en temps réel.
Je voudrais qu'on parle d'une autre mesure encore, le fait que le gouvernement cherche à renforcer les effectifs de Pôle emploi afin d'accompagner les jeunes et de faire face à l'augmentation de chômeurs. Donc 2800 recrutements sont prévus en tout. Les besoins sont criants à Pôle emploi, François Langot, et ça, évidemment, ça ne date pas de la crise du Covid.
Non, ça, structurellement, je pense que Pôle emploi est quand même un organisme assez défaillant, qui emploie beaucoup de gens et qui a une productivité assez faible vu que la plupart des embauches faites en France passent en dehors de Pôle emploi. Donc effectivement, le gouvernement peut mettre un peu d'argent dans Pôle emploi. Moi, j'aurais préféré qu'il réforme d'abord la structure de Pôle emploi avant de lui donner de l'argent, puisqu'on sait que en temps normaux, quand il n'y a pas beaucoup de chômeurs, Pôle emploi est assez inefficace. Hein. Pôle emploi, c'est à peu près 40% des embauches en France. Donc c'est quand même un organisme qui emploie beaucoup, beaucoup de gens.
Mais inefficace par manque de moyens, peut-être?
Non, qui est inefficace par, je pense, assez mauvaise connaissance du marché, avec des employés qui sont très, très loin des préoccupations territoriales de leurs entreprises et de l'évolution des compétences demandées par les entreprises sur leur territoire, qui est complètement méconnue des agents locaux. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème structurel à Pôle emploi, qu'on peut effectivement arroser d'argent. Je pense que c'est un petit peu ça, de l'argent dans le désert.
Christine Hérel, vous partagez ce point de vue ?
Alors, pas tout à fait, dans le sens où je pense que là, il y a un enjeu d'accompagnement des personnes dans le cadre de tous les dispositifs qu'on vient d'évoquer, y compris d'orientation, puisque comme on l'a dit, il y a plein de dispositifs un peu partout. Donc je pense qu'il y a un enjeu pour Pôle emploi et d'autres organismes. Hein. C'est vrai aussi pour, par exemple, les missions locales qui mettent en place la garantie jeune. Il va y avoir un enjeu d'accueil et d'orientation des personnes qui vont venir se présenter et qui auront effectivement besoin des dispositifs d'emploi aidé ou de formation qu'on a évoqués. Donc là, on n'est peut-être pas tout à fait dans les mêmes difficultés que celles qui viennent d'être évoquées, c'est-à-dire qu'on est plus sur le volet accompagnement, individualisation, etc. Et ça, je pense que les personnes qui travaillent à Pôle emploi savent mieux le faire. C'est le volet entreprise, effectivement, qui est plus en difficulté.
Le gouvernement a annoncé que ses effectifs à Pôle emploi seront renforcés si la crise sociale s'aggrave. Mmh. On voit que le gouvernement cherche à rassurer Xavier Rago tout en ménageant ses efforts financiers.
Oui, vous avez raison. Parce que ce dont on parle là, et c'est juste l'entrée marché du travail. On est rentré dans le détail des mesures, mais l'enjeu principal de la reprise de l'emploi sera la reprise de l'activité et la reprise de la consommation des ménages. Et c'est ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que l'épargne de précaution du fait de l'incertitude sur le marché de l'emploi et l'incertitude sanitaire fasse que les 100 milliards d'épargne des ménages français dans cette crise, du fait simplement qu'ils n'ont pas pu consommer pendant la période de confinement, ces 100 milliards, il faut qu'ils retrouvent le chemin de la consommation de qualité, la consommation durable, la consommation de services de proximité, la consommation de biens produits sur le territoire français, enfin, etc., que ce soit tout à fait compatible avec les autres objectifs, mais que ça relance l'emploi et donc rassurer les ménages, rassurer les familles, rassurer les entreprises. C'est pas qu'un mot. Moi, j'aime pas trop le mot confiance. Hein. Il faut des actes. On juge les gens sur des actes. Donc rassurer sur des actes concrets, je pense qu'effectivement, c'est un impératif.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiphaine de Rocchini.
Xavier Rago, Christine Hérel et François Langot sont toujours avec nous pour parler du plan du gouvernement pour limiter l'explosion du chômage. Alors en plus de l'activité partielle classique, l'exécutif a imaginé un nouvel outil, l'activité partielle de longue durée, dont la ministre du Travail, Elisabeth Borne, veut faire un bouclier anti-licenciement. Quel est l'objectif de ce nouveau dispositif entré en vigueur en juillet, Christine Hérel?
L'objectif, c'est d'inscrire dans la durée, effectivement, la logique du maintien en emploi, qui était celle du chômage partiel expérimenté pendant la période du confinement et encore jusqu'à aujourd'hui. C'est de l'inscrire dans la durée sur la base d'une négociation au sein des entreprises, et donc en continuant à apporter aussi une aide financière de l'État pour soutenir cette logique de maintien en emploi et de flexibilité interne dans les entreprises.
Donc cela vise des entreprises qui sont effectivement, qui risquent d'être touchées dans la durée, on pense par exemple au secteur de l'aéronautique.
C'est l'ensemble des entreprises ou des secteurs dans lesquels on va avoir une baisse d'activité, donc une baisse du coup du nombre d'heures travaillées. Donc l'idée c'est qu'il y ait effectivement moins d'heures travaillées, mais par contre qu'on maintienne les emplois.
Mais alors qu'apporte ce dispositif que ne permettait pas le chômage partiel classique? Quel est l'objectif de l'État en mettant en place une telle mesure, François Langot?
Moi, je pense que l'objectif de l'État, il est assez légitime, c'est qu'on a des secteurs stratégiques en France qui sont vraiment très mis à mal par la crise. En particulier, vous l'avez cité vous-même, Airbus, par exemple, c'est quand même notre fleuron industriel. Et c'est vrai que je pense qu'Airbus pourra commencer à revendre correctement des avions dans 2 ans. Donc il est évidemment clé, comme c'est un des secteurs qui alimente le plus la R&D en France, et quand même des secteurs vraiment... On est la première entreprise mondiale de construction d'avions, donc c'est quand même quelque chose de très important, c'est un secteur à haute valeur ajoutée. Et c'est vrai qu'il est très important de conserver le savoir-faire de tous ces ouvriers, tous ces employés qui travaillent pour des secteurs qui sont comme ça stratégiques pour la France, qui conservent leur contrat de travail pour que quand ça reprendra, parce que ça reprendra d'un seul coup, quand les frontières vont s'ouvrir, d'un seul coup, tout le monde se coordonnera sur ce point d'entente qui est l'ouverture. Là, les avions redécolleront et il faudra revendre à ce moment-là. Et il faut absolument que les gens soient là, prêts à reprendre le travail.
Alors, il y a un accord de branche qui a été signé notamment dans la métallurgie, mais la ministre du Travail se désolait que ça n'ait pas encore autant de succès qu'elle aimerait. Comment l'expliquer, Xavier Rago? Pour l'instant, les entreprises ne se sont pas tournées vers ce dispositif.
Trop peu, parce que je pense qu'on est au début. Deux petits points là-dessus. C'est que, l'activité partielle a été mise en place avec une rapidité assez impressionnante en France. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, on savait de plusieurs conseillers que l'exemple allemand de la crise de 2008 était un exemple qui, on n'en parlait pas, mais ils avaient bien assuré, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, les Allemands pendant la crise de 2008 avec leur dispositif d'activité partielle. Donc ça fait longtemps que c'était instruit dans les cartons de l'administration comme un dispositif utile en tant que crise. Donc là, on a pu le mettre en place rapidement. Et encore une fois, c'est incroyable, 8 millions de salariés concernés, avec une rapidité de mise en place très importante. Là, c'est un dispositif maintenant qu'il faut faire rentrer dans un dispositif normal d'accompagnement des entreprises, au moins jusqu'à cette fin de crise. Alors, comment on va le faire? Le problème, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, il y a un petit point de désaccord avec l'optimisme de François Langot sur, par exemple, le secteur aérien. On ne sait pas trop l'évolution du secteur aérien après crise. Il y a un danger de ce dispositif, c'est d'aider des entreprises qui devront évoluer. L'automobile devra évoluer vers la mobilité électrique. Il ne s'agit pas de garder des salariés en activité partielle pour l'ancien monde thermique qui va évoluer.
Et donc ce dispositif bloquerait ces évolutions?
Alors, il pourrait retarder. Mais vous voyez la difficulté, c'est qu'il faut aider, à stabiliser les compétences, mais il ne faut pas fossiliser le monde d'hier. Et c'est cette double difficulté qui fait que l'activité partielle longue durée est conditionnée à certains secteurs, conditionnée à des accords d'entreprise, et c'est très bien. Et donc je pense que les conditions qu'on donne fait que le succès n'est pas aussi grand que ce qu'on a mis en place en avril, parce que là on essaie d'articuler à la fois le court terme et aussi le long terme. Il ne s'agit pas d'avoir des dispositifs qui gèlent nos entreprises, alors qu'on sait que la transition écologique est nécessaire, etc. Toutes les mobilités sont nécessaires. Donc on est dans une phase vraiment de on ajuste l'outil de court terme pour penser de long terme. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas encore la diffusion actuelle de ce dispositif dans les entreprises françaises.
En parallèle, les mesures de chômage partiel classique sont prévues jusqu'à la fin de l'année. Elles pourraient être prolongées si nécessaire. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire la semaine dernière. Cela va dépendre de la capacité d'un certain nombre de secteurs, l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, à rebondir, Christine Herrel.
Oui, je pense que ça va surtout dépendre de l'évolution de la situation sanitaire, du coup, puisque c'est assez directement relié. Si on reste sur une situation, enfin, si on connaît de nouvelles situations avec des limitations fortes, effectivement, à l'ouverture des établissements, etc., là, ça justifiera complètement de prolonger les dispositifs de chômage partiel.
Mais ce qu'on voit, c'est que l'État, tout de même, cherche à sortir progressivement de ce chômage partiel, et ça semble être un exercice assez périlleux, comme le disait Xavier Rago.
Oui, bah, effectivement, l'équilibre, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas forcément facile. C'est un chemin de crête hein, entre le fait qu'on ne peut pas soutenir trop longtemps des entreprises qui, de toute façon, feraient ou feront faillite parce qu'elles sont sur des segments de marché qui ne vont pas se relever. Alors, c'est vrai pour certaines entreprises industrielles peut-être, mais ça peut être vrai aussi dans les services. Il y en a certaines qui ne vont pas forcément réussir à s'en sortir. Et en même temps, il faut aussi, effectivement, privilégier le maintien en emploi et le maintien des compétences, même s'il peut y avoir des besoins de formation complémentaires par ailleurs pour les salariés.
L'objectif de ce dispositif, l'activité partielle de longue durée, ce nouveau dispositif, c'est aussi de profiter de l'activité réduite dans le cadre de cette activité partielle de longue durée pour former les salariés.
Ben oui, effectivement, Xavier a raison sur le fait que je suis peut-être un petit peu optimiste. Je vois pas l'évolution du monde. C'est vrai que Airbus, les différentes entreprises aussi du secteur industriel automobile ont besoin d'évoluer. Donc effectivement, les salariés ont besoin d'être un petit peu en emploi et puis certainement beaucoup formés pendant ce temps où en fait finalement la demande sera un petit peu plus faible. Donc la formation, l'orientation du capital humain vers des connaissances qui permettent de produire autrement pour demain est effectivement une nécessité. Et aujourd'hui, comme le coût d'opportunité à se former est beaucoup plus faible parce qu'on peut pas produire, il faut effectivement profiter. Donc effectivement, ces mesures-là doivent être conditionnées par des plans de formation des employés qui sont effectivement correctement affichés et qui vont vers des emplois plus propre.
Et avec cet impératif, effectivement, de flécher la formation sur les secteurs prioritaires du plan de relance, Xavier Rago.
Oui, alors les secteurs prioritaires du plan de relance, ils sont de plusieurs natures. Il y a effectivement, comme ce qu'on a dit, il y a l'aéronautique automobile qui ont des chocs transitoires et probablement hôtellerie, commerce, restauration et l'événementiel, le spectacle vivant, voilà, qui sont impactés à court terme. Et puis, dans les secteurs prioritaires, il y a aussi la rénovation thermique. Et un besoin de compétences évident, parce que quand on essaie de faire une rénovation thermique des bâtiments publics, les lycées, les hôpitaux, les casernes, les prisons, etc., ça demande des compétences qui, au moment où on se parle, ne sont pas forcément disponibles. Donc, dans un monde idéal, si vous voulez, il faudrait... Les emplois d'avenir, ils sont là. Donc, il faudrait trouver un moyen de rendre notre système de formation professionnelle, le compte personnel de formation, efficace pour permettre à des salariés de passer du secteur automobile vers la rénovation thermique des bâtiments dont on aura besoin. C'est ça dont il faut parler. Alors, peut-être que ce sera dans le cadre du Haut Commissariat au Plan. Vous voyez, on peut rêver cette vision d'un État stratège. Mais c'est ça l'enjeu de tous ces dispositifs. C'est faire que le monde d'hier ne soit pas écrasé par cette crise et faire émerger le monde demain en termes de compétences des salariés, des entreprises en difficulté.
Aider les salariés à se reconvertir dans des métiers d'avenir, c'est ça l'enjeu, François Langot?
Ah oui, ça c'est vraiment un enjeu important. On sait très bien que nos sociétés, depuis les années 80... évolue de manière vraiment très très vite avec le progrès technologique et les différentes innovations qui ont eu lieu dans le monde numérique. Donc effectivement, il faut essayer de former au mieux les salariés, aller vers cette économie verte le plus vite possible. Mais effectivement, comme le disait Xavier, aujourd'hui, on n'a pas véritablement les compétences. Alors moi, je voudrais revenir juste aussi sur un petit point de détail quand même sur les secteurs aidés qu'il faut bien distinguer. C'est que dans les secteurs aidés, les prioritaires, il y a deux types de secteurs. Il y a les secteurs qui vendent des biens de consommation durables, où là, on peut imaginer que Les achats n'ont pas eu lieu pendant la période de crise, mais qu'ils se feront après. Donc, on n'achète pas une voiture entre mars et juin, mais comme on a besoin, on va forcément l'acheter en décembre. Par contre, il y a des secteurs aidés qui sont là, par contre, dans la panade totale. C'est que quand on n'a pas été à l'hôtel pendant ses vacances au mois d'août, on ne va pas retourner à l'hôtel en octobre. Donc ça, c'est une perte pure. Donc effectivement, les secteurs qui vendent des non durables, des purs flux, là, sont effectivement très très sensibles. Parce que eux, c'est 6 mois d'activité qui ont été gommés de la carte, avec les salaires à payer. Donc ça, effectivement, c'est quand même une autre problématique. Il faut vraiment regarder les choses de manière très distincte et faire attention. Il faut vraiment faire du sur-mesure, faire attention.
Et est-ce que la formation, Christine Hérel, n'est pas d'autant plus importante que l'une des difficultés structurelle en France, c'est la réinsertion des salariés peu qualifiés. Et là, il faut peut-être voir les dispositifs qui existent déjà et qui vont dans ce sens.
Oui, alors effectivement, on a en France un déficit de formation et de compétences générales, en fait, pour les salariés les moins qualifiés. C'est-à-dire que du coup, avant d'envisager même de leur faire une transition vers des secteurs qui sont des secteurs prioritaires, pour un certain nombre d'entre eux, on a besoin de les faire monter en compétences sur des compétences qui sont des compétences très générales. Donc typiquement, les compétences numériques, par exemple, que certains n'ont pas et qui sont les compétences basiques d'utilisation d'un ordinateur, etc., par exemple, qu'ils vont avoir besoin d'utiliser.
Ça, c'est pris en charge par le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, donc dirigé vers les chômeurs peu qualifiés et les jeunes éloignés du marché de l'emploi. Et c'est un plan qui est largement pris en charge par les régions. C'est un bon outil, selon vous, Christine Hérel ?
Alors, le PIC, il est en cours de fonctionnement et d'évaluation. Il y a toute une série d'évaluations qui sont lancées dans ce cadre-là, dont on n'a pas encore les résultats. Donc, c'est difficile de dire si c'est un bon outil. Ça va dans le bon sens parce que c'est une mesure qui, effectivement, est ciblée sur ces personnes qui sont particulièrement concernées par des faibles niveaux de qualification. Et puis, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est le côté expérimentation. C'est-à-dire qu'on a cherché à faire monter plein de nouveaux dispositifs mis en œuvre à un niveau local, avec effectivement les régions et divers partenaires à l'échelon local. Et ça, je pense que c'est une bonne démarche. Maintenant, en termes d'évaluation, on est encore loin du compte parce que ce n'est que le début.
Il y a 1 milliard d'euros supplémentaires prévus dans le plan de relance qui est dirigé par ce PIC. François Langot, Xavier Rago, vous voulez réagir ?
Sur le PIC, effectivement, moi je pense que c'était un bon outil, puisque c'est un outil déjà qui est géré par le territoire. Donc déjà, quand on a des plans d'investissement dans les compétences, et donc les compétences vont être gérées au plus proche de la région en fonction des besoins territoriaux des entreprises, ça je trouve ça effectivement a priori positif. Évidemment, comme disait Christine, on n'a pas encore les évaluations, les collègues dans les laboratoires là sont dessus pour les évaluer. Je pense qu'a priori les premiers résultats sont plutôt assez positifs. Maintenant, il faudra voir sur l'ensemble du territoire. Les choses sont tellement hétérogènes, comme chaque territoire a géré lui-même cette enveloppe et a fait au mieux en fonction de l'évolution des compétences demandées sur le territoire. On verra, mais je pense qu'a priori, c'est une bonne manière, ça, de gérer territoire par territoire, de manière hétérogène, les différents besoins de la nation.
Enfin, il y a un gros effort peut-être à faire sur la numérisation des formations. Xavier Rago, les organismes de formation sont assez en retard sur ce point ?
Oui, probablement. C'est avec les conditions sanitaires actuelles, tout ce qui est augmenter l'efficacité de l'enseignement avec des outils numériques et chose à laquelle on est tous autour de cette table confrontés avec toutes les difficultés face aux étudiants est un vrai sujet. Sur ce point, par exemple, l'éducation nationale a quand même bien fonctionné avec des outils numériques et dans cette rentrée, les outils numériques fonctionnent assez bien. On sait faire quand même. On oublie que la France est quand même un pays qui a l'administration la plus numérisée quand même. On oublie dans ces comparaisons internationales. Donc on a quand même un État qui sait utiliser les outils numériques et qui peut probablement, en lien avec les territoires, les régions et autres, transférer des connaissances et des compétences pour l'enseignement avec les outils numériques modernes.
Pour conclure, quelles conditions, selon vous, faut-il réunir pour limiter la casse sociale en France, alors qu'on l'a dit, le coronavirus continue de gagner du terrain, François Langot ?
Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne aussi un petit peu à l'analyse qu'on avait avant la crise. Parce que la crise, bon, effectivement, blesse encore plus la nation, mais la nation était déjà en difficulté pour augmenter le nombre d'employés en France. Le taux d'emploi en France est très faible. La participation au marché du travail est une des plus faibles des pays de l'OCDE. Donc on était déjà, depuis 5 ans, dans ces difficultés, à essayer de faire participer davantage les gens au marché du travail, à essayer d'augmenter le taux d'emploi. Je pense que Effectivement, le plan de relance permet là de baisser les charges sur les salaires et en particulier sur les bas salaires, ce qui était effectivement la mesure la plus efficace depuis longtemps discutée par les économistes. Donc là, je pense qu'il va y avoir encore plus d'aide pour les bas salaires et donc pour les gens les moins qualifiés pour leur permettre d'accéder, d'être inclus dans la nation via l'emploi. Je pense que c'est une bonne chose, effectivement. C'est un petit peu dommage qu'on ait attendu la crise. Ces aides-là auraient pu être faites dès le début de la présidence Macron.
Christine Herrel.
Moi, je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer sur l'expérience aussi du passé, les difficultés du passé. Il faut être ambitieux, sachant qu'un des enjeux aussi sur le marché du travail français, c'est le problème des inégalités de manière générale. C'est l'inégalité entre les non qualifiés et les qualifiés, on en a parlé, inégalité entre les âges, puisque les jeunes sont effectivement davantage concernés par les difficultés lorsqu'elles se présentent. Donc il faut avoir effectivement la volonté de lutter contre ces inégalités. Je pense que c'est un point important pour la période de crise et pour l'avenir aussi.
Ne pas oublier l'avant-crise, nous disait François Langot. Lutter contre les inégalités, nous dit Christine Herrel. Xavier Rago.
Effectivement, insister. Le scandale français, c'est les jeunes non qualifiés qui sortent du système éducatif non qualifié. Et il y a un problème structurel avant la crise qui est multiplié par cette crise. Donc c'est un chantier qu'il faut toujours mettre sur la table. C'est le scandale français. On n'arrive pas à traiter notre jeunesse non qualifiée. Second point, c'est que vous avez parlé de casse sociale, c'est important. Là, on parle emploi et autres, mais il n'y a pas que l'emploi. Il y a des populations précaires, il y a des populations handicapées, il y a des populations, des familles nombreuses. Je pense qu'il faudra faire très attention à gérer dans la sortie de crise les autres aspects des inégalités qui ne sont pas directement liés au marché de l'emploi, qui sont les franges les plus marginales dans l'accès à l'emploi qui subissent cette crise de manière directe.
Merci beaucoup à tous les trois. Xavier Rago, président de l'OFCE, Christine Herrel, titulaire de la chaire Économie du Travail et de l'Emploi au CNAM, et François Langot, professeur associé à l'École d'économie de Paris. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, la bibliothèque de l'écho.
Convoqué par le DRH et l'Inquisition, l'ascenseur monte vers la terrasse. Je me pose une question. Il me dit, si je considère votre position, descendue par les actionnaires, pliez vos cartons. Je lui dis, il n'y a rien à faire. Il me répond, non. Et je redescends sur la terre. Reste la question. Oh pour la casse, pas de rédemption. À la question subsidiaire, personne ne répond.
Vous écoutez Bon pour la case de Bernard Lavillier sur France Culture. Entendez-vous l'écho? Et tout de suite, c'est l'heure, comme chaque lundi, de la bibliothèque de l'écho. C'est un autre regard sur la discipline économique que nous offre François Vatin, professeur de sociologie à l'université Paris-Nanterre. Il publie aux éditions Laborintus un bref ouvrage sobrement intitulé De l'économie. Dans cet essai, complété par une post-faste sur la crise sanitaire, le sociologue propose un nouveau partage épistémologique entre sciences sociales et sciences économiques. On l'écoute au micro de Marguerite Caton.
J'ai une carrière un peu particulière puisque j'ai été en poste d'enseignant en sciences économiques et puis ensuite en sociologie. Donc j'ai vraiment eu l'occasion de pratiquer deux disciplines, de beaucoup enseigner l'économie politique pour sociologues. Je faisais ça notamment quand j'étais en poste de sciences économiques à Rennes. Et ensuite, de monter des formations bidisciplinaires à Nanterre, où on a essayé d'organiser les disciplines, et je me suis confronté souvent à des étudiants qui étaient des étudiants de sciences économiques, mais avec un profil hétérodoxe, qui voulaient faire autre chose en économie, tout en restant en économie. Et d'une certaine manière, cet ouvrage, c'est un peu le produit de ce dialogue-là que j'ai eu avec de bons étudiants, pris dans cette espèce de tension de vouloir faire de l'économie, mais pas sur les canons ordinaires de la discipline. Or, ça me semble se heurter à un certain nombre de problèmes épistémologiques que j'essaie de traiter dans le livre.
Vous essayez de régler le vieux contentieux entre l'économie, la science économique et les sciences sociales, surtout la sociologie. Mais vous avez ajouté, si j'ai bien compris, à votre ouvrage de départ, suite à la crise pandémique, un bref appendice, l'économie de guerre sanitaire. Et je voudrais qu'on commence par ça, parce que pour nombre d'observateurs, le confinement a signé la revanche vraiment de la vie sur l'économie. Et à vos yeux, l'état de guerre sanitaire signe au contraire un moment d'économicité renforcée de nos vies. Expliquez-nous cela.
Oui, alors d'abord, je me suis trouvé un petit peu comme bien d'autres, c'est-à-dire que cet ouvrage, il était préparé pour être présenté au Salon du Livre à Paris en mars dernier, qui a été, si vous vous souvenez bien, le premier événement condamné avant même le confinement généralisé. Et donc l'ouvrage a été mis un peu en suspens, et je me suis dit, mais est-ce que ça a encore du sens de publier ça? C'est-à-dire que j'avais d'emblée conscience que nous étions en train de vivre, sans aucun doute, les événements planétaires les plus graves depuis la crise de 29. Pour moi, c'était une évidence depuis le début. Voilà, comme tout le monde, je voulais pas forcément renoncer à mon livre, et j'ai beaucoup, par ailleurs, suivi l'actualité, comme le discours d'Emmanuel Macron, comme toutes les réactions qui ont lieu après, mettant en cause, par exemple, cette expression de « nous sommes en guerre », comme effectivement tout ce à quoi vous faisiez allusion, c'est-à-dire cette idée d'une revanche de je sais pas quoi, l'homme, le social, sur l'économie. Et du coup, ça m'a effectivement donné les moyens de mettre ma problématique à l'épreuve de cette actualité, en montrant notamment que, alors d'une part, cette idée d'état de guerre sanitaire me paraissait fondée, dans le sens où pour moi la guerre, si définit état de guerre, c'est pas l'ennemi, c'est la radicalité de l'objectif. Et de ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a une grande similitude entre ce qui s'est joué en matière de gestion des événements et ce qui se joue dans les situations d'économie de guerre. Donc,
oui, vous parlez d'une nouvelle hiérarchisation des priorités. Absolument. Dans le cadre de l'économie de guerre, on a un objectif, c'est sauver des vies, les nombres de lits en réanimation, et toute la chaîne de production, la chaîne socio-économique, doit s'ordonner à partir de cet objectif qui, vous le soulignez, est fixé par le politique et non plus par le consensus social.
Tout à fait. Alors donc, d'une part, effectivement, l'idée de la radicalité des objectifs, et puis d'autre part, autre chose, qui est le fait que il faut réajuster en permanence. Hein, c'est-à-dire que l'état de paix, d'une certaine manière, c'est un état stabilisé où tout le monde est orienté par les routines, alors que c'est justement dans l'état de guerre qu'il faut en permanence réajuster, et pour en permanence réajuster, en permanence recalculer. Donc deux idées à partir de là, c'est que effectivement on ne calcule pas moins, d'une certaine manière on calcule plus, et d'autre part, cette idée que la question n'est pas d'opposer l'économie à un autre ordre de valeur sociale, au sens où, tout simplement, l'économie n'a pas de valeur en propre. L'économie, c'est l'organisation des valeurs à un moment donné, et si on réorganise les valeurs, eh bien, on réorganise ce qu'on appelle communément l'économie.
Ça nous amène en effet à la question qui est vraiment le centre de votre ouvrage. Qu'est-ce que l'économie? C'est votre titre, de l'économie, et vous êtes très clair, François Vatin, il ne s'agit en aucun cas d'un champ particulier de l'activité humaine, mais d'une pratique commune, et vous la nommez l'acte de gestion. De quoi s'agit-il?
Eh bien, il s'agit simplement que, je dirais, dans les comportements de quelque nature qu'ils soient, il y a des formes de décisions qui sont prises, hein, d'ajustement par rapport au réel, en fonction, finalement de ce qu'on désire, de ce qu'on l'on considère comme un bien, de ce qu'on appelle communément les valeurs, et puis de l'autre côté, eh bien des contraintes auxquelles on se confronte, la nature de l'état du monde, et cette confrontation, elle peut se résumer de façon très grossière, mais ça permet de bien indiquer de quoi il s'agit, sous la figure du ratio. Hein, c'est un ratio, c'est-à-dire un rapport. Ce rapport des fins aux moyens, eh bien, effectivement, il est parfois explicitement calculatoire. Il est le plus souvent de façon très implicitement calculatoire. Dans les gestes les plus ordinaires, essayez de penser ce que c'est que de descendre un escalier et réfléchissez à quel point notre cerveau calcule à ce rapport des fins aux moyens dans un exercice aussi apparemment ordinaire que celui-là. Et si on pose les questions dans ces termes-là, eh bien, on peut voir toute l'économie se déplier autour, finalement, des questions très simples, c'est-à-dire qu'est-ce que je considère comme étant des fins, qu'est-ce que je considère comme étant des moyens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est un bien, qu'est-ce qui est un produit, qu'est-ce qui est une valeur, qu'est-ce qui est un coût, qu'est-ce que je cherche à économiser, qu'est-ce que je cherche à produire. Et cette question-là, c'est l'économie dans le sens le plus générique du terme.
Cette conception que vous développez d'une économie qui se déploie finalement dans le quotidien et la plupart des actes de manière implicite ou explicite, calculatoire ou non, ça va à l'encontre des théories de Karl Polanyi. Que lui reprochez-vous ? Vous êtes assez sévère.
Oui, alors mon objectif n'était pas du tout d'être sévère vis-à-vis de Polanyi, qui est un auteur pour lequel j'ai le plus grand respect intellectuel.
Bien sûr.
Ça remonte à ma lecture dont la personne qui a le premier diffusé Polanyi en France, hein, qui est effectivement Maurice Godelier, dans Rationalité et Rationalité en économie, je vous dis, c'est pratiquement une des premières lectures que j'ai faites quand j'ai commencé à faire de l'économie en 1974. Et il y a une insatisfaction profonde de ma part qui remonte à cette lecture dans la distinction que tente Polanyi entre ce qu'il appelle l'économie formelle et l'économie substantielle. Donc l'économie formelle, c'est celle des économistes, c'est l'économie calculatoire, qu'il oppose à l'économie substantielle, qui serait l'économie matérielle. Or, en fait, tout ce qu'essaye de montrer ce livre, c'est que cette distinction tient très très difficilement, parce que... On reprend ça à travers cet exemple de l'économe, hein, ce petit outil, hein, l'épluche patate que j'ai fait mettre sur la couverture de ce livre. Hein, et j'ai été chercher un petit extrait qu'on trouve sur Internet pour définir l'économe. Et quand vous voyez cet extrait-là, vous voyez que c'est défini en termes d'optimisation. L'objet le plus ordinaire de la vie quotidienne, eh bien, est destiné à, d'une part, faire des épluchures plus fines, hein, moins gâchées de matière, et puis d'autre part, aller plus vite. Donc, cette distinction, elle tient très difficilement, et j'ai essayé de montrer qu'en fait, Polanyi se débat avec ça, hein, je veux dire, de façon extrêmement pertinente, et au fond, sa difficulté, c'est que il rabat deux dimensions différentes, que sont d'une part, eh bien, la dimension matérielle des formes d'existence par rapport aux cadres idéologiques, hein, donc ce que Marx appelait infrastructure versus superstructure, et puis d'autre part, ce qu'on appellera très formellement les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes. Et la distinction entre l'économie substantielle et l'économie formelle, finalement, elle est sur la diagonale de ce tableau. C'est-à-dire qu'elle passe de la question des formes matérielles d'existence dans les sociétés traditionnelles à la question de l'idéologie économique dans le cadre des sociétés modernes. Et ça laisse de côté les deux autres cases de ce tableau, c'est-à-dire le fait que les sociétés traditionnelles, pour faire fonctionner cette économie matérielle, avaient des cadres idéologiques, et le fait que dans notre société, nous avons aussi une économie matérielle qui est précisément l'objet de la sociologie économique, qui n'est pas réductible au cadre formel que construisent les économistes.
C'est ce que donc, je voulais vous demander.
J'ai essayé, si vous voulez, non pas de dénoncer Polanyi, hein, mais de reprendre le problème qu'il posait et d'essayer de trouver une solution à ce problème qui me paraît plus satisfaisante.
Dans le cadre de cette nouvelle définition de ce qui relève non plus d'un champ économique, mais de l'irrigation du champ par l'économie, qu'est-ce qui reste à la sociologie ? Vous avez pratiqué les deux disciplines. Et qu'est-ce que la sociologie de l'économie ?
D'une façon très pratique, c'est là que ça renvoie à ce que je vous expliquais tout à l'heure concernant mes relations pédagogiques avec les étudiants. C'est-à-dire ça renvoie dans, je dirais, les préconisations que j'ai par rapport à eux, de leur dire, mais il faut que vous fonctionnez dans l'autre sens. C'est-à-dire que ils aimeraient partir du cadre des économistes pour l'infléchir et pour absorber d'une certaine manière tout le social de façon plus réaliste. Et je leur dis, mais non, c'est pas par ce procédé-là que vous y parviendrez. Donc, ben faites l'effort, faites comme tout le monde, allez voir l'économie matérielle, comment les gens matériellement vivent, raisonnent, et à partir de là, vous allez trouver éventuellement des instruments dans la théorie économique. Hein, mais vous voyez bien, c'est une inversion, en gros, passage d'une conception hypothético-déductive de la science à une conception beaucoup plus inductive. Et qui du coup, ça aussi c'est leur grand étonnement, qui du coup moi me met beaucoup plus à l'aise qu'ils ne le sont eux-mêmes par rapport à l'économie standard. C'est-à-dire que eux voudraient, se débarrasser de cette économie standard qui leur paraît toxique. Ça ne me dérangera pas de pouvoir reprendre tel ou tel argument de l'économie standard si il me paraît pouvoir expliquer une configuration. Donc voilà la leçon de ce point de vue-là, hein, tel que je l'entends.
Je vous remercie François Vatin, je rappelle le titre de votre ouvrage De l'économie et c'est aux éditions Laborinthus. Deep blue and purple eyes. On the
C'est la fin de votre magazine d'économie. On se quitte avec Dreams de Télépop Music. Demain, l'État peut-il anticiper l'avenir? On en parle avec l'économiste Patrick Allard. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Nous retrouver également sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.